Et plus, Béatrice Malige.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Mais vous aimez le cinéma, donc nous voici. Et donc, je vais vous parler d'un film, d'un cinéma, le cinéma coréen. Alors, pourquoi, me direz-vous? Eh bien, comme toujours, je vais vous répondre pour rien. Si, si, là, il y a une vraie raison. C'est parce que d'abord, c'est du très beau cinéma, très intéressant, parce qu'il est à la fois, il peut y avoir des films très violents, très trash, très sanglants, mais des films aussi d'une énorme poésie, des films très raffinés. Voilà, donc c'est une belle palette. Et là, je vous parle du cinéma coréen, tout simplement parce que commence le festival Corée d'ici. Ça va faire la 4e édition, qui a de plus en plus de succès. Et dans ce festival coréen, c'est l'occasion de voir, évidemment, toute la palette des arts coréens, que ce soit en danse, en sculpture, en peinture et en cinéma. Et donc, lundi prochain, nous verrons un film, c'est un documentaire qui me paraît très intéressant, mais je vais vous en parler tout de suite après. Pour l'instant, pour nous mettre un peu, non pas en appétit, parce que la musique que je vais vous faire entendre n'a rien à voir avec la Corée, mais bon, voilà, il est 11h30, c'est l'heure, allons-y, on va s'écouter encore boublé, vous allez voir, c'est formidable.
Out of the tree of life, I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still, it's a real good bet, the best is yet to come. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Wait till the warm-up's underway. Oh, wait till our lips have met. Wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. The best is yet to come, come the day you're mine. Ah, come the day you're mine. I'm gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. We're gonna drain that cup dry. Wait till your charms are right for these arms to surround. Think you've flown before, but you ain't left the ground. Wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw you near. Wait till you see that sunshine place. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, and babe, won't it be fine? The best is yet to come, come the day you're mine. Come the day you're mine. I got plans for you, babe. And baby, you're gonna fly.
Voilà, alors évidemment, ça nous a mis en joie, parce que le film dont je voudrais vous parler, qui passera lundi prochain donc au Diagonale, à 13h, à 14h je crois, vérifiez là sur la brochure du Diagonale, parce que je n'ai pas l'heure exacte, ce sera une seule projection évidemment, et donc j'aurai le plaisir de le présenter, voilà. Mais déjà, je voudrais vous dire que c'est quand même un documentaire. Bon, moi, je suis pas une excitée des documentaires, mais c'est vrai que là, quelquefois, c'est assez extraordinaire parce que c'est un film sobre, avec un titre sobre, puisqu'il s'agit tout simplement de Madame B, une Nord-Coréenne. Eh bien, Madame B, Nord-Coréenne. C'est une femme assez remarquable qui va traverser toutes les frontières parce qu'elle veut fuir la Corée du Nord, parce qu'elle y meurt de faim. Et puis, bon, vous le savez qu'il y a une séparation entre Corée du Nord et Corée du Sud, je ne vous apprends rien. Et ça s'est fait d'une façon assez désastreuse, parce que des familles ont été séparées. Donc, évidemment, des gens de la Corée du Nord ont voulu quitter ce régime et aller ailleurs. Et il y a eu des passeurs, comme toujours. Vous avez des gens, vous savez, les gens très sympathiques qui vous aident à passer, mais moyennant pognon, vous voyez. Bon, voilà, ils ne font pas ça comme ça par générosité. Hein. C'est exactement le contraire. Et donc, c'est ce qu'elle fait. Et puis, la plupart du temps, même comme on leur demande souvent d'être prostituées, si elles refusent, ben, on les vend directement à des familles, notamment chinoises. C'est ce qui lui est arrivé. Et elle se retrouve, c'était son cas, elle avait quitté sa famille pour subvenir aux besoins. Et tout d'un coup, elle se retrouve avec deux familles, une chinoise et une autre coréenne. Donc, une histoire absolument rocambolesque. Et ce qui est d'autant plus incroyable, c'est que c'est vrai. Voilà. Et en même temps, le réalisateur qui s'appelle Jero Yoon, je ne sais pas si je prononce bien, il va filmer cette fresque méconnue qui est très honnêtement, moi je l'ai découvert, hein, donc je ne le savais pas quand j'ai vu le film, j'ai été très épatée. Et donc ils vont quitter leur patrie. Et donc Jero Yoon a suivi cette femme et il a même failli, ça a été très problématique parce que quand il passe, à partir du moment où tout d'un coup ils deviennent chinois, et bien quand ils veulent revenir en Corée du Sud, et bien la Corée du Sud les prend pour des espions. Alors bon, voilà. Et donc, il y a une torture morale, physique, qui se passe aussi bien, d'ailleurs, en Corée du Nord que du Corée du Sud. Mais enfin, ça, c'est dit plus ou moins, voilà. Bon, enfin, bref, c'est un film assez palpitant, très intéressant, voilà, que je vous recommande, bien évidemment. Écoutez, si c'est possible, Stéphane, on va s'écouter tout de suite la bande-annonce de ce film. Voilà, c'est un film que je vous recommande, donc c'est l'occasion d'aller le voir, si vous aimez le cinéma, bien sûr, mais si vous êtes aussi, vous aimez l'histoire, enfin, si vous êtes curieux, parce que c'est un film, l'intérêt, c'est que quand on voit ce film, on peut se forger sa propre opinion. devant cet incroyable périple Madame B, histoire de cette Nord-Coréenne. Alors c'est un film qui, au-delà de ce qu'il dit, est un film qui est assez bien fait. Et d'ailleurs, il a été primé au Moscou International Film Festival, à Zurich Film aussi Festival. Voilà, donc c'est un... Et je crois même qu'il a eu le prix du meilleur documentaire. Voilà, et donc je crois qu'en effet, c'est un documentaire qui vaut le détour. Voilà, donc je rappelle, c'est donc au Diagonale, lundi prochain. Donc nous serons je ne sais plus si on est le 16 ou le 19, vous savez, je ne sais jamais quel jour on est, je m'en excuse. Enfin, c'est lundi prochain, regardez, vous trouverez tout seul. Et vous regardez sur, ça doit être indiqué dans la petite brochure du Diagonale. Alors donc, pour vous parler un petit peu du cinéma coréen, puisqu'on est dans cette phase de festival Corée d'ici, écoutez, juste un petit rappel, mais je ne vais pas m'apesantir, mais il y a quand même de grands noms du festival coréen. Je pense à Im Kwan-taek, c'est le plus ancien, mais c'est aussi le plus formidable, qui aime bien parler des choses de la tradition. Et notamment, il y avait un film, si vous l'avez vu, vous ne pouvez pas ne pas vous en souvenir, parce qu'il était sublime dans ses photos et dans son histoire, c'était Ivre de femme et de peinture. Voilà, et donc il a fait d'autres films aussi qui étaient tout aussi remarquables. L'an dernier, on avait présenté des films, trois films à Clapier. Il y avait aussi Océam, qui était un dessin animé pour les enfants, formidable aussi, qui parlait de la tradition bouddhiste, qui était plein de délicatesse. Voilà, il y avait un autre film qui, lui, on ne peut pas dire qu'il était dans la délicatesse, mais qui était aussi un film assez fort. C'était The Housemaid de Im Sang-soo. C'était en gros, l'histoire d'une employée qui se faisait engrosser par le patron chez des femmes riches, enfin chez un, dans un milieu extrêmement richissime. C'était assez violent et voilà, donc c'était, ça permettait de voir aussi ce que le cinéma pouvait faire dans le genre. C'était un film de 2010, et qui d'ailleurs reprenait une histoire, parce que c'est quand même quelque chose qui était assez récurrent, ça. Le pouvoir des gens Afrique, quoi, sur les petites gens, c'était assez violent. Et c'était un film qui avait déjà été tourné par Kim In-young en 1960, vous voyez, et qui avait d'ailleurs eu un grand succès en Corée. Donc, Housemaid, film, qui était tout à fait remarquable aussi. Et puis, il y avait un autre film, et là, je vais m'y arrêter, je vais vous en parler un peu plus longuement. Parce que je trouve que c'est un film qui était d'une grande finesse. C'est un film qui s'intitule « Locataire » au pluriel. En réalité, le titre initial était « Maison vide ». Et je trouve que très souvent, comme toujours, je ne vais pas dire toujours, mais presque très souvent, le titre original est souvent plus subtil que la traduction, parce qu'au fond, il ne révèle rien, mais il dit tout. Maison vide. Et le réalisateur Kim Ki-duk, je ne sais pas s'il se prononce bien, Duke peut-être tout simplement, Kim Ki-duk, c'est un homme né en 60. Il est très marrant parce qu'il a toujours une casquette qui est vissée sur la tête, même quand il va monter les marches pour recevoir le Lion d'argent à Venise et justement pour le film Locataire. Et alors il a une passion, c'est la peinture. Et c'est en venant faire des études à Paris qu'il va découvrir le cinéma. Et il va commencer sa carrière dans les années 90. Alors, c'est vrai qu'il nous a toujours habitués à des films très étranges, des films contemplatifs. Et c'est un cinéma qui ne laisse pas insensible. C'est pour ça qu'il faut parler. On pense toujours que le cinéma coréen est très, très violent. Non, aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des films d'une grande poésie. Et je pense que Locataire, c'est un film qui est séduisant parce qu'il y a, il a aussi des trouvailles dans la réalisation cinématographique, notamment dans les cadrages, dans les effets sonores. Et même si on n'est pas cinéphile, si on n'a pas l'habitude de bien regarder les films et de bien les entendre, c'est cette façon de réaliser vous fait sentir la pression, la colère, la poésie. Alors, écoutez, je vous propose tout de suite, on écoute la bande-annonce du film de Kim Ki-duk, je pense qu'on dit comme ça, Kim Ki-duk, Les Locataires. Allons-y, c'est parti.
Thank you. 저희 가족은 잠시 제주도 여행을 떠납니다. 용건이 있으시면 내일 다시 걸어주세요.
도대체 뭐가 부족해? 뭐가 불만이야? 너 때문에 미치겠어? 정말 안 받을 거야?
당신들 뭐야? 어? 남의 빈집에다 술 먹고 지금 뭐 하는 거야? 어?
그놈 기다리는 거지. 감방에서 나올 때까지 여기서 같이 기다리자. 오기만 해봐. 이상해. 어젯밤부터 우리 집에 누가 있는 것 같아.
Voilà, donc vous venez d'entendre la bande-annonce de ce film, Le Locataire, Les Locataires. Non, ça s'appelle exactement Locataire. Mais je vous le disais à l'instant, le titre initial du coréen, Kim Ki-duk, c'est Maison vide. Eh bien, comme toujours, quand on regarde un film, les premières images vous disent si vous allez entrer dans un film de qualité ou pas. Eh bien là, je peux vous dire qu'on entre dans un film de qualité. C'est-à-dire que les premières images du film sont très singulières et elles disent beaucoup du film. Nous avons une statue féminine, une sorte de Vénus, qui est vue à travers un filet et on entend un bruit qu'on a du mal à répertorier. On ne sait pas très bien ce que c'est. On sent que c'est un bruit qui... un bruit de l'air et qui est suivi par un choc dans le filet. Et là, je crois que avec ce bruit qui est très étrange, nous avons au fond le raccourci, et avec cette image, le raccourci de l'histoire du film. Parce que notre regard est attiré par cette statue emprisonnée. Et la séquence qui suit montre un jeune homme qui distribue des prospectus et qui se fait klaxonner par un autre homme qui veut sortir sa voiture du garage. Et le jeune homme a garé sa moto devant. Donc les deux hommes s'échangent un regard. On ne peut pas dire que l'homme à la voiture soit vraiment sympathique. Mais ce jeune homme qui distribue des prospectus, il semble bizarre. Parce qu'il entre dans une maison avec un pass. Il n'est pas chez lui. Et puis il a un rite, on le verra au cours du film. Il mange, il se lave, il lave son linge, il le sèche. Il est... très à l'aise dans toutes ces maisons vides, parce qu'il fait ça systématiquement, et même il fait des selfies en se mettant devant des photos qui sont sur les murs des habitations. Alors la première maison est celle d'un couple avec un enfant, couple qui se dispute et où il y a une arme d'enfant avec laquelle il a tiré sur trois ballons, qui correspondent d'ailleurs aux trois personnes qui habitent cet appartement. Vous voyez, la violence est omniprésente. Puis le réalisateur va nous entraîner sur une autre piste, où l'on se demande si ce jeune distributeur de pub, au fond, il n'est pas un criminel. On se demande si ce n'est pas un violent. Et c'est l'enfant qui menace sa mère, la râleuse qui lui dit « tue-moi ». Ben, c'est ce qu'il fait. Il appuie sur la gâchette et il y a un fondu au noir, le cri de cette mère est off. Donc vous voyez, on entre à la fois dans quelque chose qui est très insolite et très violent. La deuxième maison qu'il visite, eh bien, elle est plus luxueuse. Et là, le regard, il y a une femme qui regarde ce jeune homme qui est filmé. Elle apparaît cadrée à moitié, dans des espaces très resserrés, dans des portes entrouvertes, et son visage est huméfié. Elle ne s'exprimera qu'au téléphone et par un cri. Vous voyez, donc déjà, il y a quelque chose aussi d'insolite. Cette personne qui est dans cette maison est assez particulière. Et Tae-sung, puis Suk, je ne sais pas si on dit Suk ou Suk, enfin j'en sais rien, qui est donc ce jeune homme qui distribue des prospectus et qui rentre comme ça dans les maisons, s'installe dans cette maison, comme à son habitude. Il trouve un album photo qu'il feuillette. Il va dans la baignoire, il se sèche, il le repasse avec son fer à repasser, etc. Et au fond, ce qui est très intéressant, c'est que tout d'un coup, il va On se demande si ces photos qu'il met dans la baignoire, est-ce qu'il les met pour les laver, les purifier, puisqu'après il les réchauffe, donc vous voyez, c'est toute une symbolique. Ce sont des photos évidemment très importantes dans le film. D'ailleurs, c'est la marque de la photo, parce que la marque des photos argentiques, c'était la preuve que les choses avaient existé, ce qui n'est pas toujours le cas maintenant avec les photos numériques. On peut mettre n'importe quoi sur les photos numériques. Donc c'est vrai que là aussi, on perd pied un peu parce qu'on est dans la virtualité la plus totale. De temps en temps, c'est bien quand même de remettre un peu les pieds sur terre. Et donc voilà, il y a toutes sortes de lui. Et c'est lui en même temps qui, tout d'un coup, il ouvre un placard, il y a toute une garde-robe. Et comme il sait très bien, il a vu cette jeune femme et qui se camoufle plus ou moins, parce que d'abord, elle a le visage tuméfié, on comprendra après, c'est qu'elle a un mari violent et donc elle en a les stigmates, évidemment. C'est donc ce jeune garçon, Tae-suk, qui va ouvrir la garde-robe et puis il va choisir les robes pour cette jeune femme. Et notamment, il choisit du rose. Il pose les habits au sol et donc tout d'un coup, ça c'est magnifique comme idée parce que cette robe est placée au sol, c'est comme une silhouette plate mais vide en quelque sorte. Évidemment qui correspond peut-être à la statue que nous avons vue en ronde bosse qui était en marbre blanc dehors. Donc vous voyez, on est cette espèce de personnage qui est à la fois une statue mais donc figée en marbre blanc qui est aussi cette espèce de robe vide qui est posée au sol, eh bien, c'est un peu peut-être la personne qui habite cet appartement. Et donc, on s'aperçoit aussi que, petit à petit dans le film, ce qui est dit, c'est que les balles qui étaient dans le revolver, elles ont tué, mais on s'apercevra que les balles, dans le golf aussi. C'est-à-dire que on s'apercevra que le bruit qu'on a entendu tout à l'heure, qui frappait, parce qu'on ne la voyait pas tellement c'était rapide, c'était une balle de golf, qui a évidemment son importance, que je ne vais pas peut-être vous dévoiler, évidemment. Et donc, tout d'un coup, cette jeune femme, qui sent que tout d'un coup, avec Tae-suk, qu'elle a quelqu'un qui vient le réparer d'une certaine façon, ou en tout cas lui permettre de sortir de cette prison dans laquelle elle est, eh bien, ils vont partir en moto. Et là, il y a des images magnifiques parce qu'ils vont s'arrêter devant un lac extrêmement calme et qui rompt évidemment avec la séquence qui a précédé, puisqu'elle se fait encore hurler. Enfin, son mari hurle encore sur elle, etc. Parce qu'elle répond au téléphone. Enfin, je vous passe sur le détail parce que c'est sans intérêt. Enfin, en tout cas, vous comprenez la situation. C'est que c'est quand même une femme qui est victime, évidemment. Et donc, ils vont passer là aussi donc devant un lac très calme, hein, donc où tout d'un coup on peut respirer, prendre le temps. Et puis ils vont passer ensuite devant une autre statue, une sorte de déesse, une femme aux ailes déployées, qui repose sur un socle torsadé. Donc vous voyez, on est dans le mouvement, mais un mouvement qui peut-être permet de prendre pied et d'aller au-delà. Et donc c'est une image qui est rapide et cependant très caractéristique, parce que ces ailes déployées, évidemment, nous renvoient à deux moments du film très importants. Tae-suk est dans sa prison, il est en cage, puisqu'à la fin, tout le monde, les gens, parce que comme il rentrait dans des maisons vides, évidemment, un jour ou l'autre, les gens ont trouvé que c'était pas normal. Et dans sa prison, il y a une image superbe, il est là, il tourne les pieds nus sur lui-même, et à force de tourner, c'est son esprit qui s'évade, son esprit se libère. Alors, on se pose la question, va-t-il accepter d'être tué pour se débarrasser de ce corps? Bon, la réponse n'est pas donnée par le réalisateur. C'est au fond le spectateur qui va devenir co-auteur, et c'est pas plus mal. Donc, c'est vous qui donnerez la réponse. Mais lorsqu'il revient chez les gens, et là, on pense que c'est uniquement son fantôme, son esprit, il revient dans ces maisons vides où il a passé un moment, eh bien, là, les gens s'inquiètent, parce qu'ils sentent une présence, mais sans la voir. Et donc, j'ai envie de dire que la maison vide, qui était donc le titre initial du film, c'est bien évidemment une métaphore pour parler de la solitude, mais plus encore de la misère affective qui enferme les gens et qui est évidemment omniprésente, parce que il n'y a qu'une maison qui est accueillante, celle d'un couple en harmonie, et où Tae-suk, donc ce personnage un peu en errance, et Sun-hwa, d'ailleurs, qui est donc cette jeune femme dont il va tomber amoureux, vont venir boire du thé et parler de leur amour. Et d'ailleurs, quand Tae-suk sera emprisonné, Eh bien, Sun Hwa, donc la jeune femme agressée par son mari et qui a eu à un moment ce moment de liberté avec Tae-suk, elle va revenir dans cette maison, la seule maison qui était accueillante. Elle va s'allonger sur le divan et dormir. Elle va pouvoir dormir, enfin. Et le couple va la voir dormir, mais ils ne vont pas la rejeter. Et quand Sun Hwa va partir, le couple se regarde, mais en même temps, ils sont très heureux d'avoir permis à cette femme de se reposer, d'avoir un moment de calme, de silence, dans cette espèce de utérus très profond, mais évidemment, parce que les maisons, c'est ça aussi, hein, donc c'est évidemment toute une symbolique. Et puis, il y a une autre séquence magnifique où les bras de Sun, qui sont déployés comme des ailes, apportent de l'émotion et de la poésie. Parce que quand elle écarte les bras, qu'elle est revenue chez elle à la fin du film, elle vient placer ses bras dans l'ombre des bras de Tae-suk. Parce que Tae n'est pas présent, mais en revanche, son ombre est contre les murs. Et donc, Sun vient se lover, en quelque sorte, dans les bras, mais qui ne sont que des ombres de Tae-suk. C'est une image qui est très forte et qui symbolise l'amour dans une fusion du réel et du virtuel, du réel, de l'imaginaire, et qui donne toute sa puissance à l'amour, au fond, qui se solde par un baiser. Mais je veux dire, c'est quelque chose d'assez énorme, quoi. Et quand tous les deux sont sur la balance, ils montent sur une balance pour se peser, ils ont les pieds enchevêtrés, l'un dans l'autre, si je puis dire, la balance marque 0 kg. Les corps se sont immatérialisés. Les corps ne pèsent rien quand les esprits, les âmes sont jointes. Et pour nous conforter dans cette réflexion née à partir des images du film du réalisateur, le réalisateur ajoute une phrase à la fin du film, qui est évidemment à méditer. « Impossible de savoir si le monde où nous vivons est rêve ou réalité. » C'est pas faux. La présence de l'invisible est quelque chose qui est intéressant. Donc c'est un film qui répond à cette question en partie, mettant sur le même plan rêve et réalité. Tant pis si on ne sait pas, c'est à la fois rêve et réalité, et où la parole est inutile. Il y a très peu de paroles dans ce film, et surtout dans un rapport amoureux, et où l'image apporte de la grâce quand la maison ne reste pas vide, quand le regard dont nous avons parlé voit l'invisible. Donc c'est un film magnifique que je vous recommande, Les Locataires de Kim Ki-duk. Donc vous voyez, le cinéma coréen, il faut absolument regarder ce cinéma qui a une ouverture d'esprit absolument incroyable. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous recommande, pour terminer, encore une fois, le film Lundi, bon, qui n'est pas une fiction évidemment, c'est un documentaire, il y a des gens qui adorent les documentaires, donc c'est le moment ou jamais, parce que là, on a un documentaire de qualité, où on peut dire que le réalisateur, Jero Yoon, s'est vraiment mouillé, parce qu'il y est allé à fond, il a failli même à un moment, il s'est demandé s'il allait revenir vivant. Donc, il a pris beaucoup de risques. Hein, donc, voilà, c'est pas la raison pour laquelle on va voir le film, bien évidemment. Mais enfin, ça y participe, évidemment. Voilà, donc, voilà le petit tour d'horizon que je voulais faire. Merci Stéphane. Et puis, écoutez, nous revoyons par l'oreille, avec les oreilles. On se revoit avec les oreilles mercredi prochain.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre !